Couture.
Attendez-vous que vous avez tout sauté un plomb.
Dans le mid.
Avec Pierre Couture.
Ouais.
Et Nick Cloutier.
Ouais, ouais.
Radio.
Radio.
X.
Ouais, ça faisait un bout qu'on n'avait pas jasé avec Pierre Poilus, député conservateur de la région de Québec. Député fédéral. Ouais. Puis je dis, on va voir. Oh. Y a-t-il des choses à se dire? Ben oui, il y a des choses à se dire.
Oui.
Et à se dire. Voilà, Pierre Poilus, comment allez-vous?
Salut, ça va très bien, merci.
Là, on voit le taux de chômage aujourd'hui là, qui redescend un peu. Il y a la création d'emplois, mais c'est très difficile depuis le début de l'année. On est en récession. Là, il y en a qui vont dire technique ou pas. Une récession, c'est une récession, hein, comme on dit.
Deux trimestres négatifs, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'était 0,1 », tout ça, mais il reste qu'on est dans le négatif, on n'est pas dans le plus.
Exactement.
Que, les définitions, tout ça, il y en a qui s'obstinent, mais il reste que les deux trimestres négatifs, c'est une récession. Puis, garde, puis même dans l'année, il y en a eu trois. Là. Il y en a eu un qui était positif, mais sur le total, il y en a trois qui ont été négatifs. Fait que c'est malheureusement le cas.
Et quand on voit les médias beaucoup dire « Ah, c'est technique, c'est pas une grosse récession, c'est pas profond », alors que quand c'était une récession technique du côté de Stephen Harper en 2015, c'est drôle, hein, mais on s'est payé à traite, puis on a dit que l'économie canadienne s'effondrait, puis ci, puis ça. Est-ce qu'il y a un traitement différent quand c'est les libéraux ou quand c'est les conservateurs?
Ben effectivement, j'ai vu des nouvelles là-dessus. Il y en a qui ont démontré justement ce qui était dit à l'époque puis ce qui est dit aujourd'hui.
Ouais.
Puis même, j'ai vu une vidéo de Mark Carney qui était en 2016, qui était à la Banque d'Angleterre, je crois. Puis dans Mark Carney a répondu à la question, puis a dit « deux trimestres négatifs, c'est une récession ». Donc, il avait même lui-même répondu à ça en confirmant que c'était bien le cas. Donc, pourquoi qu'aujourd'hui, il y a du patinage? Mais ça, c'est de la politique. Donc, il faut savoir, est-ce qu'on garde les faits, sont les faits, ou on fait de la politique avec ça? Moi, je pense que l'important pour tout le monde, c'est de retenir que la productivité, entre autres, est vraiment faible au Canada, qu'il y a des enjeux. Là, maintenant, ben, est-ce que, comme conservateur, on souhaite que ça continue d'aller mal? Bien entendu que non. On veut que les choses se replacent, mais en même temps, ce qu'on a besoin, c'est de savoir, c'est que les alignements que le gouvernement propose, est-ce que ça va dans le bon sens? Puis c'est ça qui est difficile actuellement d'évaluer.
Oui, hier, c'est la directrice du parlementaire du budget à Ottawa a quand même sorti un document qui fait état de ralentissement économique par rapport aux prévisions du gouvernement libéral, parce que là, il y a des déficits à venir. Elle, ce qu'elle dit, c'est que là, l'économie ralentit davantage de ce que vous aviez dit dans vos énoncés budgétaires. Par conséquent, le déficit va être plus important. Ça, c'est la réalité aussi, là.
Ben, c'est la réalité. Puis, tu sais, il ne faut pas se leurrer. Là, on a déjà que, depuis son arrivée, Mark Carney a déposé le plus grand déficit de l'histoire. Là. On est pire que Justin Trudeau. Donc, ce qu'on voit, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de création de structures administratives à Ottawa. Tu fais des bureaux de gestion de ci, des bureaux de gestion de ça. Mais dans les faits, c'est que la machine gouvernementale, là, nos taxes, l'argent de nos taxes puis des impôts qu'on paye, on arrive short. De façon dramatique, là, c'est des milliards, des dizaines de milliards de déficit, et ça, c'est encore pire. Donc, à un moment donné, il y a des décisions très sérieuses qui doivent être prises, et c'est ce qu'on ne voit pas. Donc, le gouvernement dit on investit, mais c'est parce que l'investissement se fait avec l'argent emprunté, et l'argent emprunté coûte cher aussi d'intérêt à tout le monde.
Bon, on parle du fonds souverain, là, ils veulent emprunter de l'argent pour investir, mais ce qu'ils nous ont pas dit, c'est que ça allait coûter quoi, 750 millions?
750 millions d'intérêts
par année, c'est ça?
Fait que ce fameux fonds souverain-là, qui techniquement aurait dû être fait avec du profit, hein, si le Canada, on était en mode surplus budgétaire, c'est cet argent-là qui serait investi dans un fonds souverain, alors que là, on a décidé d'emprunter 25 milliards pour partir un fonds qui nous coûte 750 millions d'intérêts par année. Fait que j'espère que l'argent qui va être investi, on ne sait où encore, va rapporter. Parce que sinon, ça va être ça sera vraiment encore un coup d'épée dans l'eau qui va nous coûter très cher.
Ouais, d'ailleurs, décision très critiquée, parce qu'on dit on a déjà une banque d'infrastructure, on a déjà des organisations qui font
ça.
Là, on vient multiplier les interventions gouvernementales ciblées peut-être aussi. Donc peut-être aux amis plus qu'à autre chose.
Il y a tellement d'affaires qui gravitent autour de tout ce qui se passe à Ottawa. On vient qu'on en perd le fil, mais effectivement, qu'il y a beaucoup de comme Brookfield, par exemple. On sait que Brookfield a les pattes dans presque tout ce qui se passe actuellement autour de Mark Carney. Puis ça, c'est très préoccupant. On a d'autres informations qui s'en viennent, qu'on est en train de creuser. On voit que Brookfield a un déraillement qui ont explosé. Mais quand tu regardes ça autour, tu regardes ce qui se passe, tu regardes les décisions qui sont prises par le Canada, donne, profite massivement à Brookfield. Et Brookfield, surtout, a de l'air à diriger, tire les ficelles sur qu'est-ce qu'il devrait faire.
C'est-à-dire qu'on fait
ou
des
non.
règlements où on ajoute la bureaucratie qui fait en sorte que dans certains secteurs de l'économie, les entreprises ne peuvent plus continuer, ou à tout le moins, on force des fusions ou à tout le moins
c'est
des
ça.
Rachats au privé. Et on voit Brookfield très active là-dedans.
Exactement.
On l'a vu, là. On l'a vu dans certains cas.
C'est même pas caché, c'est ça le pire. Puis c'est ce qui me dérange en même temps et qui fait mon affaire. C'est que là, il va falloir juste que la conscience collective et que les médias s'y attaquent sérieusement. Parce que là, Brookfield, on sait que M. Carney, juste avant d'être premier ministre, était le président de Brookfield. Puis il est parti de là en ayant déménagé le bureau chef à New York, de Toronto à New York.
Ouais, ouais, ouais.
Par la suite, c'est devenu pour devenir premier ministre du Canada, mais les liens avec Brookfield sont extrêmement étroits et c'est ça, Brookfield sont encore partout, à chaque déplacement.
Pourquoi Radio-Canada ne parle pas de ça?
Y a-t-il
un blocage?
C'est ce qu'on attend. On espère que là, il va y avoir un bureau d'enquête qui va vraiment faire des vérifications et finir par sortir des choses. Mais pour l'instant, de mon côté, c'est sûr qu'on doit être prudent. Vous savez comment c'est. Dans la Chambre des communes, on peut dire pendant ce qu'on veut parce qu'on est protégé. En dehors de la Chambre, ben là, j'ai pas envie de recevoir une action par la tête. Mais il reste qu'il y a quand même des choses qui sont publiques. Il y a des choses qui sont faciles à voir. Il faut juste maintenant attacher tout ça ensemble et d'avoir l'histoire juste.
Ben, Gabriel Hardy le fait très bien, là, votre député.
Oui, Gabriel, aussi. Qui est notre collègue, le bon Charlevoix, qui est sur le comité de l'éthique. Donc, Gabriel est pas mal à temps plein à suivre ce dossier-là. Et c'est pour ça que Gabriel nous sort beaucoup d'informations, puis il va nous en sortir d'autres bientôt. Puis on a l'équipe, après ça, au niveau de l'équipe du chef, de voir ce qu'on peut faire avec tout ça.
Oui. TGV, là, on n'a aucune idée comment ça va coûter. On fonce comme s'il n'y avait jamais de lendemain. On nous dit au début 90 milliards, 100 milliards. Là, on parle peut-être de 200 millions, on ne sait pas. Tu as des agriculteurs aussi qui vont se faire amputer des terres, ou en tout cas, ils vont se faire enlever une partie de leur terre. Ça aussi, c'est un dossier qui est très chaud.
Honnêtement, le TGV, honnêtement, nous, on s'est prononcé contre. Là. Pas parce qu'on n'a pas... Est-ce que tout le monde aurait le goût d'embarquer dans un TGV puis de s'en aller à Toronto? Puis, ben oui, tout le monde, quand on voyage en Europe...
Ça dépend à quel coût aussi, là.
Ben là, c'est ça. Un, il y a le coût de construction de tout ça qui est vraiment, vraiment, vraiment sous-estimé. On regarde ça. Le gouvernement est arrivé. On a pris une décision, premièrement, avant d'avoir des informations
plus
détaillées.
C'est Justin Trudeau, en passant, qui a passé à POC à Kearney.
C'est ça.
C'est le cadeau de Justin Trudeau, ça.
Moi, j'avais rencontré le président d'Alto, Martin Blot, mes bureaux, le président de... Parce que moi, je disais au début, à Viorail, j'ai dit ça, ce projet-là, là, on est vraiment très sceptique, puis pour l'instant, on n'est pas d'accord avec ça. Puis ça, je remonte il y a 2 ans et demi, 3 ans.
Ouais.
Martin Blot avait dit, laissez-nous, justement, 3-4 ans, on va faire l'évaluation de tout ça, puis on va vous revenir avec une évaluation à 75% précise de ce que ça va coûter, parce qu'il faut calculer, justement, les expropriations, il faut calculer le coût de construction des ponts, après ça, le projet, là, les rails en tant que tel, etc. Fait que ça, moi, j'ai dit, parfait, on ne fera pas de politique avec ça. On vous laisse faire un travail. Puis quand vous aurez l'info, on verra ce qu'on en fait. Mais là, Justin Trudeau, en décembre 2024, lui a décidé que non, tiens, c'est parti, on part ça. Fait que là, la demande qu'on avait d'être raisonnable et d'attendre d'avoir des évaluations complètes a pris le bord. Justin Trudeau a dit ça d'école. Puis là, ils ont fait des bureaux de projet, des milliards, 4 milliards dans les bureaux de projet. Puis là, c'est parti, cette affaire-là. Puis finalement, ben, quand tu demandes au président d'Alto, c'est quoi le budget? Ben, 90, 100 milliards, on ne sait pas trop.
Ça n'est pas rentable. Non, ouais. C'est ça.
C'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, il y a des études qui ont été faites par l'Université de Montréal qui démontrent aussi le coût des billets. Là. Je veux dire, veux remplacer l'avion, tu veux remplacer d'autres moyens de transport, mais tu arrives, si tu es à Québec, tu dis que ça coûte, je ne sais pas, 300-400 par personne prendre le TGV. Le père de famille, ils ont volé en famille à Toronto, oublie ça. Là. Je ne paierais pas 1500$ pour des billets. Fait que là, finalement, ils vont rester à la maison. Fait que là, de quelle façon?
Ils veulent pas le dire. Parce qu'ils savent que la réponse, ça va être quoi? Ça va coûter des centaines de dollars pour aller à Montréal, par exemple.
Québec-Montréal, si ça coûte vraiment trop cher, les gens vont dire, regarde, je vais prendre mon auto, ça va prendre moins pire. Mais c'est ça, on a des grandes histoires comme ça qui font ni queue ni tête. Mais les gens, en même temps, je peux comprendre la population qui se dit, écoute, là, à un moment donné, les gens ne savent plus que tu te perds là-dedans.
Oui, mais c'est des milliards aussi. C'est des déficits. Oui, mais c'est des déficits de milliards. Là. Je regarde les déficits, il n'y a pas de retour à l'horizon d'un équilibre budgétaire, ce qui est très inquiétant.
Pas de retour à l'équilibre. puis on continue de payer davantage en intérêt sur la dette, parce qu'il y en a qui vont dire, ben écoutez, le ratio dette-PIB...
C'est quoi le pourcentage? En termes annuels, souvent les gens... Quand le fédéral, son budget, c'est quoi, 550, 600 milliards à peu près par année?
À peu près. C'est ça. Mettons l'argent, toutes les taxes et impôts qu'on paye à Ottawa, c'est entre 500 et 600 milliards par année.
C'est l'argent qui rentre dans les coffres. C'est le budget du gouvernement. Mais en partant, lui, là, en termes d'intérêt sur sa dette qui était de 700 milliards, qui est rendu à 1 400 milliards, 1 500 milliards, lui, ça coûte combien en partant, là, juste pour payer les frais d'intérêt?
Ben, actuellement, c'est autour de 53 milliards d'intérêt.
Du budget.
Fait que tu as 10% de l'argent qui rentre dans les coffres d'Ottawa que tu prends puis tu envoies ça aux banques de New York puis de Londres pour payer les intérêts de l'argent qu'on emprunte. Donc, tu as 10% partant qui disparaît juste en intérêt. Alors qu'il y a 3-4 ans de ça, on était dans les 20-22 milliards. Fait que là, c'est ça, quand tu doubles la dette, plus tu fais des déficits, tu augmentes ta dette, et donc l'intérêt de ta dette augmente. Puis ça, ben, c'est notre argent, nous autres, qui part en premier. Fait que ce 10%-là, ce 53 milliards-là qui s'en va comme ça en intérêt, là, c'est de l'argent qu'on n'a pas pour faire d'autres choses. Fait que là, à un moment donné, tu peux pas arriver. Là. Fait que si tu continues d'augmenter ta dette, tu augmentes ton intérêt, c'est un cercle vicieux qui n'arrête pas. Là.
Et là, les taux d'intérêt sont bas. Mais si jamais on a des taux d'intérêt qui montent à 6, 7, 8 %, ça a déjà été ça, là. Même ça a déjà été à 20 %. Là. Ça a déjà été à 20 %.
C'est l'autre problème. À un moment donné, je me souviens de Justin Trudeau, quand il voulait justifier ses déficits, il disait, écoutez, les taux d'intérêt sont bas, on peut se permettre de faire ça. Mais à partir du moment, justement, que les taux d'intérêt montent, ben, la facture va monter d'aplomb. Fait que si on se ramasse là, à 53 milliards actuellement, puis que les taux d'intérêt se mettent à monter pour différentes raisons, puis qu'on se ramasse sur les 15 milliards par année, bien, c'est encore là, c'est directement de nos poches, puis t'as pas cet argent-là pour faire d'autres choses.
Ouais, l'accord de libre-échange, là, on sait pas trop, là. Ce qu'on comprend, c'est que les Américains, on avait jusqu'au 1er juillet pour dire on arrête ou on continue. Là, on va continuer encore au moins un an, on va négocier. Les libéraux sont pas dans le siège du conducteur. Là. Le Mexique semble être... La prochaine entente possible avec les Américains. Et par la suite, on aura peut-être une entente avec les Canadiens. Comment vous voyez ça de votre bord?
Ben là, c'est ça. Puis je viens de terminer ce matin une table ronde à Québec. J'ai fait toute la semaine, j'étais dans 5 régions du Québec, justement avec des entrepreneurs, des entreprises de différents milieux, dans l'acier, l'aluminium, l'agriculture, etc. On voulait voir avec eux c'est quoi l'impact actuellement de la renégociation, de la révision de la CEUM, à savoir si jamais Donald Trump décidait de déchirer ça, c'est quoi l'impact, ou également qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change. Puis là, ce qu'on voit, le point numéro un pour tout le monde, c'est l'incertitude c'est mortel, là. Il y a énormément de projets qui sont mis sur la glace. Il n'y a rien qui bouge. Tout le monde attend de savoir qu'est-ce qui va se passer. Du côté du gouvernement, on a eu une approche là, dans notre tournée. Justement, on a dit, regardez, là, on n'est pas là pour faire de la politique négative. On est là vraiment pour voir au niveau de différentes industries qu'est-ce qui se passe, pour voir aussi, quand on parle aux libéraux, là, sur quel levier qu'on doit aller. Là. Parce qu'on sait que Donald Trump, c'est le problème numéro un, on sait ça. Mais de l'autre bord, comme pays, on est positionné comment et comment on veut se positionner face à tout ça. Là, ce qu'on voit actuellement, c'est évidemment la CEUM, ce qu'on pense, les discussions qu'on a, que ma collègue Shelby Cramp-Newman, qui était avec moi, qui est une députée de l'Ontario, qui est notre représentante pour les affaires Canada-États-Unis, était à Washington avec Dominique Leblanc mardi. Elle a fait 6 rencontres depuis 2 mois là-bas.
Ouais.
Elle me dit que ça a beaucoup changé. Puis mardi, vraiment, la discussion avec les Américains...
Le ton a changé.
Puis c'est beaucoup plus positif. Fait qu'elle pense, en tout cas, on n'est jamais sûr de rien avec M. Trump, mais ce qu'on pense, c'est que ça va probablement se stabiliser pour la CEUM, puis qu'il ne devrait pas avoir de changement dramatique. Donc ça, c'est important que ça se règle.
Ben, je sais qu'il a baissé là, des 25% à 15% l'aluminium, l'acier, c'est dans les derniers jours. Là. Il a révisé à la baisse, mais ce qu'on pense, c'est qu'on pourrait peut-être avoir une entente d'ici les midterms. C'est tout ça qu'on entend?
Ouais, ben là, c'est ça. Fait que là, les midterms, là, il y a un impact politique aux États-Unis parce que si les démocrates reprennent le contrôle du Congrès, du Sénat, le M. Trump va être mal pris. Donc, si on pense... Ça devrait se régler avant ça, ce qu'on espère. Mais le point, la zone d'ombre que j'ai découvert plus particulièrement dans mes 5 rencontres, dans les 5 municipalités qu'on a faites, là, l'article 253, 232, excuse-moi, 232. Ouais. L'article 232, ça, c'est quelque chose qui s'est passé à un moment donné, que Donald Trump a décidé de prendre cet article-là puis de le tasser, qui fait en sorte que là, maintenant, les produits, tous les produits qui contiennent de l'acier sont taxés, mais pas taxés à la valeur de l'acier qui est dans le produit, taxés à la valeur globale du produit. Fait que ça a un impact démesuré sur nos entrepreneurs qui exportent aux États-Unis. Par exemple, je sais pas moi, un produit, une pièce d'équipement qui vaut 10 000 $ Mettons qu'il y a 500 $ d'acier dedans. Fait qu'avant, on payait un tarif, il fallait payer un tarif sur le 500 $ d'acier.
Mais là, ça sera sur la valeur finale.
Mais là, c'est sur le 10 000 au total. Ouais. Au lieu de coûter 200$, ça en coûte 2500.
Oui, mais les produits vont augmenter l'autre bord, là. C'est ça la
fin. Ben là, c'est ça. Fait que c'est pour ça que là, du côté américain, ben là, ils ne veulent plus acheter parce que ça n'a plus de sens. Fait que là, le marché est complètement cassé. Fait que ça, c'est un élément qu'on n'entend pas assez parler puis qui est vraiment qui a ressorti dans toutes les rencontres qu'on a faites. Cet article-là, 232, a créé un problème majeur. Des entreprises, exemple au Saguenay ou même ici à Québec, obligées d'emprunter des millions de dollars juste pour être capable de survivre en attendant que ça sorte place. Fait que là, ça presse parce que quand tu renouvelles la CEUM, ça ne fait pas partie de la CEUM, mais c'est en contravention avec la CEUM. Donald Trump avait fait
impose ça. Impose des tarifs, ouais, puis là, le temps des challenges devant les tribunaux, ça peut être long, là.
C'est ça, il l'avait fait en 2018. Puis il y avait un challenge au niveau des regroupements d'acier qui avait gagné, fait qu'il y avait un recul. Mais là, M. Trump s'est servi de la sécurité nationale pour mettre cette clause-là. Donc là-dessus, là, on est pris là-dedans. Mais il reste que, c'est ça, on a, au niveau de la somme, globalement, on pense qu'il y a bon espoir que ça se règle, mais ça, cet élément-là, il faudrait vraiment qu'il y ait un recul de la part de Trump, parce que sinon, là, on a plusieurs entreprises qui vont fermer, des entreprises qui allaient super bien, mais qui, là, sont vraiment pris à la gorge avec ça.
Monsieur Paulus, il y a des auditeurs qui se demandent où on en est avec la loi C9, C22. Ça fait beaucoup jaser ces projets de loi-là. Là.
Oui, C9, de mémoire, là, je pense que c'est à l'étape du Sénat. Il y a des. Parce que vous savez, à la Chambre des communes, nous, on l'a fait. Ouais. Les votes ont été faits. Après ça, c'est envoyé au Sénat. Le Sénat recommence leur tournée d'études en comité de vote. Donc, C9, c'est à cette étape-là. Au niveau de C22, C22, effectivement, c'est une loi qui sert à permettre aux policiers et aux agents de sécurité de demander à la police des renseignements aux agences de télécommunications.
Donc, sans passer par un mandat qu'un juge, là, c'est ça l'affaire.
C'est ça. Fait que là, c'est sûr que ça inquiète beaucoup de monde qui disait, c'est pas vrai. Là, que
mais ils
je
disent
vois,
quoi, les autres, les libéraux? Ils montent-tu l'ouverture pour amender ça ou on va.
Ben, à la base, quand ils ont déposé ça, nous, on a des gens qui ont dit, ça nous prend une loi pour aider les polices, surtout pour quand tu veux combattre le terrorisme, le crime organisé. Souvent, on est le seul pays du G7 qui n'est pas équipé pour ça. Par contre, là, ce qu'on a vu rapidement, c'est qu'ils vont beaucoup trop loin. Donc, la loi doit être modifiée. Il y a des éléments. Nous, du côté conservateur, on a proposé 70 amendements en comité de la sécurité publique pour dire, regardez, si vous ne faites pas des changements comme on vous le propose, c'est sûr qu'on ne peut pas supporter cette loi-là. Donc, actuellement, la loi est en étude en comité. S'il n'y a pas de changement, que les libéraux veulent rien savoir, ben les conservateurs, on vote contre, tout simplement. S'il y a des changements qui sont apportés pour améliorer la protection de la vie privée,
oui.
Peut-être qu'on ira de l'avant, mais pour l'instant, là,
vous
on semble voir que les libéraux...
C'est ça?
Okay. Oh, absolument. Nous, okay. C'est clair qu'on demande des changements, sinon, on n'appuie pas.
C'est quoi le timeline pour C22?
Encore. Le ministre de la Sécurité publique veut aller vite, mais en même temps, les travaux de la Chambre, ça se fait pas nécessairement à la vitesse qu'il veut, donc ça se peut que ça arrête puis qu'on recommence à l'automne, début de l'automne.
Okay.
Là, la chambre va fermer, puis ça va reprendre à la mi-septembre.
OK, donc c'est pas là, c'est pas imminent. Là.
Non. De toute façon, il faut que ça aille au Sénat aussi, fait que ça se fera pas du jour au lendemain. Là.
OK, en terminant, Tramway, on a eu une entente fédérale, provinciale. On met quoi? 6 milliards de dollars, 6,2 milliards pour 10 ans sur tout ce qui est transport en commun au Québec. Le tramway va en gober une bonne partie. Là, on commence à avoir du chamoyage, là, justement, parce que le RTC veut de l'argent, puis là, l'argent part à Montréal pour l'entrepôt de Newton. Ça, on va voir ça pas mal là, dans les prochains mois, là.
Ben là, c'est ça, là, l'annonce de cette semaine là, que M. Carney a faite avec Mme Fréchette de dire, bon, il y a de l'argent au Québec pour du transport collectif. Par contre, la part du tramway, est-ce que c'est ce qui est annoncé? On ne sait pas parce qu'il n'y a rien nulle part qui dit spécifiquement que le montant a été établi à 2,4.
Il n'y a pas d'entente finale là, dans ce dossier-là.
Non, c'est ça. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui a l'argent finalement et le gouvernement du Québec qui doit faire sa répartition. Donc, à partir de là... Ça va être au gouvernement du Québec de décider s'il laisse l'argent pour le Saguenay qui veut du transport, Gatineau qui en veut aussi.
Ministre Charrette semblait dire 2,75 milliards de mémoire.
Pour Québec.
Oui, exact, pour le tramway de Québec.
Moi, écoutez, là-dessus, à notre niveau, au niveau fédéral, bon, ça, les libéraux l'avaient promis, ils ont fini par avancer pour faire de quoi, OK. Mais il reste que ce projet-là, moi, ce que j'espère, je me croise les doigts, c'est que le montant que tout le monde n'arrête pas de dire, qui est à 7,6 milliards, qui ne dépasse pas ça. Parce que vraiment, si on s'en va à 10, 11, 12, comme plusieurs pensent, là, on va avoir un sérieux problème.
Bien, surtout que si tu calcules les intérêts, parce que c'est de l'argent emprunté, on le sait, là. Si vous calculez juste les intérêts pour 25 ans à 7,6 milliards, faites le calcul, là. C'est de l'argent qu'on n'a pas, mais qu'on va voir prendre à quelque part d'autre aussi, là.
C'est ça. Donc, en tout cas, j'espère que honnêtement, vous savez, nous, notre position, on était contre le projet de tramway, mais il reste que à partir du moment que ça se fait, ce qu'on veut surveiller, c'est que ça se met. Ça, ça soit efficace,
mais on
ça
le voit
fonctionne.
Pas, là. Il n'y a pas un projet de cette ampleur-là au Canada qui a terminé dans les
non,
coûts prévus. Là. C'est des dépassements.
Il n'y a jamais rien qui se tient dans le sens du monde. C'est un problème majeur qu'on a au pays dans différents projets, les projets donnés par les gouvernements aussi. Tu as un prix, puis tu te ramasses à la fin que tu payes trois fois plus cher, puis il n'y a jamais d'explication logique. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de s'engager dans des projets qui font ni queue ni tête si on n'est pas capable d'avoir une confirmation globale ou à tout le moins sensé de ce que ça va coûter pour de vrai. Voilà. Comme le TGV, on parlait tantôt.
Voilà. Pierre Poilus, député conservateur fédéral Charlebourg-Haute-Saint-Charles, merci beaucoup, puis on se reparle. À la prochaine.
Salut. Merci.
Salut, à bientôt, bye.
Ouais, on fait un grand tour.
Oui, il y a beaucoup de choses. Hein?
Beaucoup de dossiers sur le boiler, comme on dit.
Tout à fait.
Mais tu sais, c'est l'opposition officielle. Il fait sa job. Il critique. C'est ça qu'on fait. On attend de ça, de l'opposition officielle.
Oui.
Et des médias aussi.
Mais les médias, c'est pas pareil, Pierre.
Non?
Non. Okay. Carney, il est juste et bon.
Voilà. Bon, après la pause, on ouvre les lignes.
88-670-9098.
On va où?
Bien, l'histoire de l'interdiction du projet de loi sur l'interdiction des boissons énergisantes pour les moins de 16 ans. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, ma position, c'est de dire... De un, si t'interdis quelque chose à des jeunes, ils vont tout faire pour le faire pareil.
Bien, l'alcool à 18 ans, là.
Bon. Mais c'est parce que on devrait plutôt éduquer qu'interdire. Mais au Québec, on fait pas ça.
Ouais. Donc, est-ce que vous êtes pour ce projet de loi-là?
Ouais.
Moi, je veux vous entendre. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? Je veux entendre vos arguments de part et d'autre. Est-ce que ça va trop loin, 16 ans? Est-ce que ça devrait être 14 ans? Est-ce que ça devrait être, je sais pas, ça devrait
on
être
rien? On peut questionner le TDAH aussi, là?
Ben là, c'est ça. C'est un cas précis, ça. Tu comprends? Mais c'est le
oui.
cas précis qui se sert pour illustrer la problématique.
Absolument. Je comprends que c'est tragique, là, puis que c'est épouvantable, un décès à cause d'un médicament. Qui est entré en. Comment t'appelles ça, là? Pas en conflit, là, mais ça a interagi, en fait, avec la molécule de médicament. Puis il est décédé, là. Mais, tu sais, il y a beaucoup de TDAH qu'on médique. Beaucoup de beaucoup de médicaments donnés aux jeunes au Québec.
Voilà, on vient après la pause.
Et à un moment donné, les gens verront les vraies réponses. L'argent, là, est autour de vous.
Couture. Dans le mid.
Petite pause. On revient dans pas long.
Hey boy.
Radio X.